Bonjour à toutes et à tous. Notre espace de discussion est axé sur l'égalité de genre en politique, particulièrement aux élections en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous sommes avec Louise Yao. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes l'une des bénéficiaires d'une formation sur le genre, on va le dire comme ça, initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Déjà, de quoi a-t-il été question au cours de cette formation ?
Alors, bonjour madame, merci de m'inviter à cette émission. Avant de vous donner le contenu, permettez-moi de situer la formation dans son contexte.
Allez-y.
Alors, on se rend compte que depuis 2019, que la loi sur le quota est instaurée. Malgré ce fait-là, les femmes ne sont toujours pas aussi présentes en politique. Et la direction du genre et de l'équité fait un sondage, fait une enquête, une étude, et se rend compte que les femmes n'y vont pas parce qu'elles manquent très souvent de confiance, parce que comme elles n'expriment pas aussi cette confiance en elles, les partis ne les mettent pas en avant. Donc il y a un certain nombre de choses qui manquent à ces femmes-là pour qu'elles puissent... on va dire, voler de leur plein zèle. Et donc, cette formation vient pour nous outiller en confiance, en leadership, en rhétorique, en oratoire, en communication verbale, communication non verbale, et plein d'autres tips qui vont nous permettre de libérer notre plein potentiel en politique.
D'accord. Selon vous, pourquoi les femmes devraient-elles s'intéresser à la politique?
Déjà parce qu'elles sont citoyennes de ce pays et du monde, et aussi parce qu'elles doivent et elles peuvent participer de leur point de vue, de leur façon de faire. Alors, ce n'est pas nouveau d'entendre dire que les femmes gèrent mieux, ce n'est pas nouveau d'entendre dire que les femmes se préoccupent beaucoup plus du bien-être des personnes de leur communauté, de l'ensemble des personnes de leur communauté. Et donc, avec toutes ces facultés, je ne dirais pas naturelles, mais toutes ces facultés qui sont développées chez les jeunes femmes et chez les petites filles dès l'enfance, parce qu'on nous apprend à nous occuper des autres, parce qu'on nous destine au foyer, à la mère de famille, et ainsi de suite. Et vous ne verrez jamais une mère servir un repas de sorte à ce que l'un de ses enfants n'ait pas à manger. Juste une image que je prends, mais des femmes peuvent. Et aujourd'hui, il est démontré que l'intelligence n'a pas de sexe. Il est démontré que la capacité n'a pas de sexe. Il est aussi montré que la capacité n'a pas de sexe. Et donc, pour toutes ces raisons, pour toutes ces questions-là, elles doivent et elles peuvent s'intéresser à la politique, peut-être pour montrer que la gestion autrement peut se faire. Pourquoi pas?
Et pourquoi, selon vous, en politique, il y a plus d'hommes que de femmes?
Alors, parce que beaucoup d'hommes en politique sont machos, beaucoup d'appareils politiques s'associent aux personnes financièrement nantis, beaucoup de partis politiques veulent une figure qu'on reconnaît et qu'on connaît dans la région. Or, les femmes sont très souvent derrière, de par leur éducation, de par leurs finances qui ne sont pas... voilà. Et donc... on ne peut pas non plus imposer, mais il faut qu'elles-mêmes travaillent aussi sur elles. Pour celles qui ont des ambitions, il faut qu'elles travaillent sur elles. Il faut qu'elles travaillent sur leur positionnement aussi au sein de leur parti. Il faut se démarquer de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on attribue la cuisine, on attribue les bâches, on attribue le cocktail aux jeunes femmes. Non. Il faut montrer que vous êtes capable de prendre part à la discussion lorsqu'il y a un débat au sein du parti. Et pour ça, il faut avoir de la rhétorique. Et pour ça, il faut pouvoir agencer ses idées. Et pour ça, il faut pouvoir maîtriser les subtilités de la politique.
Quand vous dites qu'il faut maîtriser la rhétorique, avoir l'art de la rhétorique, est-ce à dire que pour les femmes qui ne sont pas lettrées, elles sont déjà exclues?
Non, pas du tout. Elles ne sont point exclues. Vous savez... tant qu'on parle de communauté, on parle d'appartenance. Être lettré, c'est avoir fait des études, on va dire, de blanc. Mais on sait que la sagesse africaine n'a pas d'école. On n'apprend pas la sagesse, on n'apprend pas la communication avec son cœur dans une école. Quand vous parlez avec votre cœur, quand vous parlez aux populations dans leur langue, elles vous comprennent. Parce que généralement, même dans les campagnes, il faut parler en français, il faut chercher un traducteur pour parler. Et quand c'est comme ça,
dans la langue locale,
voilà, on ne vous voit pas d'un bon œil parce que on ne vous sent pas avec. Donc, n'y a pas à faire l'école. On a des cas en Côte d'Ivoire de personnes qui ne sont pas allées à l'école, pas plus loin que le CP2, maman Eponon est là, pas plus loin que le CP2.
Le Tiastali ?
Oui, qui a été député. Donc non, on n'a pas besoin d'eux, mais il faut savoir être avec la communauté, avec les autres. Et c'est tout ça qu'on a appris.
Alors, au-delà du quota minimum de 30%, il est accordé un financement public supplémentaire à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors de scrutin. Qu'est-ce qui bloque, même avec cette motivation, selon vous?
Il y a beaucoup de choses. Il y a deux choses. Alors, la première, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, les partis politiques ont encore dans l'imaginaire populaire le fait que la femme soit celle qui s'occupe de ménage, de la maison et ainsi de suite. Quand dans un parti politique, on vous dit que la réunion ou les différentes réunions de crise ou des éléments à discuter de façon très importante se font à 23h minuit, si vous avez une femme qui est mère, épouse, qui est soucieuse du lendemain de sa famille, elle ne va pas délaisser sa famille pour venir à une réunion à 23h. D'accord. Donc, il y a au sein des partis des mécanismes qui empêchent les femmes d'eux. Il y a aussi le fait que les femmes ayant été brimées, entre guillemets, ayant été reléguées, n'ont pas cette force-là de s'affirmer, n'ont pas cette volonté-là d'outrepasser même ces petites choses qui peuvent les entraver pour venir au devant de la scène. Vous avez des partis qui disent qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Ou alors, quand on demande aux femmes de se présenter, elles disent « Ah, je vais demander à mon mari. Non, mon mari ne veut pas. » Ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui empêchent d'eux. C'est vrai que les partis ne font pas vraiment d'efforts, permettez-moi de le dire, ne font pas vraiment d'efforts pour... Parce que vous savez, on ne va pas décider de qui on prend pour septembre en octobre, par exemple. Ou un an avant, ou même 6 mois avant. C'est des choses qui se préparent. Un parti sérieux qui veut présenter des candidats, c'est minimum 2-3 ans de préparation. Pourquoi ne pas chercher en ce moment-là des femmes capables, des femmes qui se démarquent, les former et les outiller à vous représenter? Vraiment, si la volonté est là, on peut toujours trouver des éléments pour accompagner ces femmes-là. Est-ce que c'est la volonté qui manque? Je ne saurais le dire. Est-ce que ce sont les femmes qui ne sont pas suffisamment présentes? Je ne saurais le dire, mais... Je sais que ces deux choses-là contribuent à l'absence des femmes sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire.
Alors, il a fallu en 2023 brandir, on va le dire entre griffes, la menace de sanctions pour que des partis politiques tiennent compte du respect du quota des 30% de femmes.
Alors, la sanction aurait dû venir depuis longtemps. Parce que en communication de changement de comportement, il y a trois choses. Il y a la sensibilisation, il y a l'information et tout ça. Et après... il faut sanctionner. Comme je l'ai dit tantôt, si on veut véritablement respecter cette loi-là, on a la capacité de le faire. Aucun parti ne me dira qu'on n'a pas de femmes qui ressort ou on n'a pas de femmes et ainsi de suite. Il y a des femmes, il y a même des jeunes femmes qui sont prêtes parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sorte de rupture. Aux dernières élections, on a vu beaucoup de jeunes femmes de moins de 30 ans ou d'à peine 30 ans qui se sont lancées, même en indépendante, pour dire qu'il y a des femmes, il y a des jeunes femmes qui sont aujourd'hui conscientes du rôle qu'elles doivent jouer dans la société et qui y vont. Donc, c'est au parti d'approcher ces femmes-là, s'ils estiment qu'il n'y a personne dans au sein de leur rang, d'approcher ces femmes-là pour les former ou pour les intégrer dans leur façon de faire ou dans leur politique locale pour qu'on puisse ensemble y arriver. Donc oui, je suis pour la sanction parce qu'à un moment, il faut. Mais est-ce qu'on peut véritablement sanctionner quand, à la tête même, on ne fait pas ce qu'il faut? Parce que les 30%, ce n'est pas seulement dans les assemblées électives, c'est aussi dans les postes de décision, c'est aussi au sein des ministères. Est-ce que nous avons un gouvernement qui respecte le quota? Est-ce que nous avons une assemblée nationale? Est-ce que nous avons un Sénat? Donc, il y a autant de questions. Est-ce que quand on ne respecte pas soi-même tous ces éléments-là, on peut véritablement effrayer quelqu'un? Comme on dira, l'éducation se fait par imitation. Un enfant, vous lui direz, va lire, il ne lira pas. S'il vous voit lire, il va faire pareil. Donc, l'éducation, le changement, c'est vraiment dans l'imitation. Ceux qui sont devant doivent pouvoir donner l'exemple. Si c'est une question qui tient au gouvernement, si c'est une question qui tient véritablement aux institutions, les gens, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a rien derrière, comme on aime dire dans notre jargon. Bon, ok, on a cherché, on n'a pas trouvé, point, c'est fini. Bon, ok, de votre financement, on n'a pas besoin, ok, c'est fini. Donc voilà, à un moment, il faut sanctionner, mais est-ce qu'on a véritablement cette autorité-là, sans reproche,
Est-ce que vous pensez que l'instauration du quota minimum de 30% de femmes est un début de l'égalité de genre en Côte d'Ivoire?
Alors, je vais vous étonner, mais je suis contre le quota. Parce qu'en 2016, la parité est instaurée dans la nouvelle constitution. Je ne peux pas comprendre que de 2016 à 2019, on vient nous parler du quota. Pour moi, on régresse. Ou alors, si on a une liste totalement féminine, est-ce que nous devons respecter le quota? Est-ce qu'il faut absolument 30% d'hommes dans ce cas-là? En fait, il y a un petit flou derrière que je ne comprends pas personnellement. C'est vrai qu'on pourra dire que c'est une avancée. De zéro, si on passe à 30, c'est quelque chose. Mais si on est déjà à 50 ou à 60, est-ce qu'on doit revenir à 30 pour respecter les normes? C'est ce flou-là qui me dérange. Et c'est le fait qu'on passe de 50 et donc de la parité à 30 qui me dérange. On aurait pu et on aurait dû insister sur cette parité-là de tout point de vue et en politique et dans tout ordre de choses, en fait. Mais bon, on dit que quand vous demandez la lune et que vous avez les étoiles, il faut sauter. Donc, on saute. Mais même quand on saute depuis 5 ans, on n'a toujours pas ce quota-là. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que ce n'est pas, on va dire, utopique de penser que l'égalité de genre soit un jour une réalité? Déjà vu que le monde même est fait d'égalité et d'inégalité.
Alors, ce qu'il ne faut pas confondre quand on parle d'égalité de chance, c'est justement l'utopie d'un monde juste pour tous les bords ou pour toute personne. Vous savez, vous et moi, déjà, on n'est pas pareil, on a nos difficultés. Il y a ce qu'on appelle l'égalité de chance parce que je sois Yao, que vous soyez Conan, qu'il soit Assémian, nous devons, en tant qu'enfants de Côte d'Ivoire, pouvoir accéder aux mêmes choses, à l'éducation, à la formation, à l'information. Donc, si on s'en tient au fait que c'est utopique et donc on ne travaille pas pour, on sera en train de baisser les bras. Tous les siècles ont eu leur grande cause. Aujourd'hui, on parle d'égalité de chance parce que justement, une étude, un regard a été fait pour voir que certains meurent, certains tombent dans l'oubli et ainsi de suite. Il y a des problèmes à résoudre. Donc, il faut travailler à. C'est vrai que si on s'assoit pour dire, non, bon, dans tous les cas, vous savez, même les enfants d'une même mère, etc., même les doigts d'une même mère, bon, enfin, il y a plein de théories hein, qui expliquent qu'on ne sera jamais pareil, mais ce n'est pas ça la question. Quand on parle d'un état de droit, c'est que tous les enfants, c'est que moi, quand je pars à la gendarmerie ou à la police pour dénoncer un viol ou une violation, que je puisse être entendu, que mon père soit agriculteur ou pas, ce n'est pas ça qui importe. C'est en cela qu'on parle d'égalité de chance. Et on pourrait parler d'égalité de chance en politique pour que, justement, on puisse laisser les jeunes femmes, on puisse les laisser faire leurs preuves, on puisse les laisser faire autre chose que ce dans quoi on les connaît, c'est-à-dire la cuisine, le cocktail, la danse, les applaudissements, les cris, les chants, où on se couche à terre, on met un pouce dessus nous, etc. Oui, on voit tellement de choses en politique. Quand on dit « Ah, on a mobilisé, hein !» Ce sont des femmes qui vont venir taper la casserole, crier, puis bon, on donne 1 million aux femmes, oh, on s'en va. À un moment, il faut que ça cesse. Voilà.
Alors, selon vous, comment motiver les femmes?
Alors, comment les motiver? Déjà, en leur donnant accès à l'éducation, à l'information. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas déjà que pour être candidate, il faut déjà pouvoir être électrice soi-même. Donc, ça va vous surprendre, mais on a vu des cas où des femmes souhaitaient se présenter. Elles étaient très engagées déjà en termes de pré-campagne et autres. Et elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas sur la liste électorale. Ça veut dire que l'information et la formation manquent au sein de beaucoup de partis. Vous voyez? Pour qu'elles puissent y arriver aussi, il faut que ces jeunes femmes-là puissent avoir des modèles. On ne demande pas des marraines de mariage, on ne demande pas des marraines de baptême, mais on demande des femmes qui sont engagées en politique, qui vont prendre sur elles d'outiller d'autres jeunes femmes. Il faut pouvoir mettre les barres de l'échelle quand elles sont arrivées en haut pour qu'on puisse, nous, à notre tour, monter sur cette échelle-là. Donc, celles qui sont déjà en politique doivent être des exemples, doivent pouvoir donner la main aux plus jeunes. Et aux jeunes femmes, si vous voulez aller en politique, formez-vous. Parce qu'on a pu le voir à une élection présidentielle il y a quelques années, une jeune dame qui avait complètement titubé devant les caméras. Et à ce jour, à chaque élection, on a une image de cette femme qui revient. Par contre, on a vu des hommes complètement incapables d'aligner deux mots qu'on a oublié. Donc, mesdames, vous êtes, sinon nous sommes déjà absentes, mais quand on décide d'y aller, il faut y aller avec les armes qu'il faut. Formons-nous, c'est vraiment le plus important. Peu importe notre niveau intellectuel, peu importe notre niveau social, il faut vous former et vous outiller aux questions politiques, vous préparer à répondre, vous préparer à faire face à la caméra parce que vous allez en avoir, vous préparer à être à l'aise devant les gens et devant les caméras. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes femmes.
Alors les hommes ont leur rôle à jouer. Comment est-ce qu'ils devraient encourager les femmes?
Est-ce qu'ils ont envie d'encourager? Bon, on va dire que ceux qui veulent encourager devraient justement éviter d'associer les jeunes femmes ou les femmes qui ont aujourd'hui la volonté d'aller en politique à celles qui ont échoué déjà. Parce qu'on va toujours vous dire, ah, mais il y a celle-là qui a essayé, hein, elle n'a pas pu détrôner le grand baobab, ou bien il y a celui-là, ou il y a celui-là. On va toujours vous rappeler les échecs de d'autres femmes. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut vous former. Il faut être prête, justement, à entendre ce genre de choses et à ne pas vous laisser démoraliser. Donc, aux hommes, si vous souhaitez nous accompagner, il faudra simplement nous donner accès, ou bien nous laisser nous former, ou nous laisser nous informer quand il faudra. Aux époux, parce que c'est différent. Tous les hommes de la société ne sont pas des époux pour les femmes, en fait. Parce que beaucoup d'hommes se considèrent comme des époux, des grands frères ou des pères pour des jeunes femmes qui, excusez-moi, mais ne leur ont rien demandé. Nous sommes dans la société, nous ne sommes pas dans un foyer ou dans un couple. Laissez les femmes gérer leur couple loin du parti et considérez ces femmes-là comme des êtres humains, des personnes qui sont là en politique comme vous et laissez-les montrer leur plein potentiel et faire leurs erreurs aussi, parce que vous aussi, vous en avez fait.
D'accord. Alors, vous avez été, on l'a dit, à l'entame de notre émission, vous avez bénéficié d'une formation initiée par le ministère de la Femme. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que, justement, vous allez faire pour relayer tout ce que vous avez reçu comme connaissance?
Alors déjà, ça m'a fait un grand bien, on va dire, de voir autant de femmes parce que nous étions au nombre de 105. C'est vrai que pour les communes et les sous-préfectures et les du pays, c'est peu. Mais voir 105, très jeunes, hein, de très jeunes femmes de toute la Côte d'Ivoire, pour certaines sont venues de l'intérieur pour la formation. Et c'était un joli moment de voir ça pour une personne optimiste comme moi. C'était un joli moment et personnellement, ça m'a appris à mettre le doigt sur certains de mes défauts, sur certaines méconnaissances que j'avais parce que nous avons été formés par deux cabinets, disons, un cabinet canadien et un cabinet avec des personnes ivoiriennes, mais qui ont été formées à d'autres écoles, on va dire. Et donc, ça m'a apporté déjà de me retrouver dans une communauté forte de plus de 100 femmes. Avec qui j'ai gardé le lien, avec qui je discute continuellement de mes projets, à qui j'apporte mon expertise, qui m'apporte leur expertise dans certains de mes projets. Et donc, je ressors grandi avec cette communauté-là parce qu'on entend très souvent que les femmes ne sont pas solidaires entre elles quand ils ont passé des siècles à nous diviser et quand ils ont passé des siècles à se battre eux-mêmes. Ils nous disent à chaque fois que nous ne sommes pas solidaires et cette communauté dont je parle là va nous permettre de montrer que oui, même en politique, les femmes se soutiennent. Même en politique, les femmes travaillent à être élues les unes et les autres, en dehors des connaissances théoriques que ça a pu m'apporter.
D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez exploiter justement tout ce que vous avez appris?
Ah oui, alors il faut savoir que moi je suis dans un processus. C'est vrai qu'actuellement je suis sur une liste, mais je suis dans un processus. Comme je l'ai dit, je me forme d'abord. Et mon processus va peut-être aboutir dans 3-5 ans peut-être. Voilà, donc je suis en train de trouver les armes, de mettre les armes de mon côté, de mettre les points de mon côté, comme on dit en Côte d'Ivoire, afin de ne reculer devant rien quand je serai prête à moi-même être tête de liste dans ma région ou dans ma communauté. Et donc, je suis dans un, on va dire, dans un processus qui est long peut-être, mais qui me permet à chaque fois de corriger certaines choses, de corriger certains oui-dire que j'ai pu entendre, mais aussi qui va me permettre d'entrer dans ma communauté et de commencer à travailler avec cette communauté-là. Pour ne pas attendre à 2 semaines, à 1 mois, à 6 mois des élections pour venir coller mes photos sur de la nourriture que je vais offrir, par exemple. Voilà. Donc, ça nous apprend à faire des armes, mais à travailler sur le long terme, à se projeter. Et on a eu un exercice où on nous demandait, par exemple, de nous projeter sur 60 ans ou de nous projeter quand on aura 80 ans, par exemple. Donc, c'est ces éléments-là qu'on utilise pour tracer une carrière. Ce n'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a gagné une fortune de 100 000 qu'on se dit « Ah, j'ai 100 000, je peux prendre pour amadouer les femmes du marché pour qu'elles m'élisent. » Non. C'est des choses sur lesquelles on travaille sur une longue période. Et ayant été outillée, comme je l'ai dit, je suis sur une liste. J'ai été approchée par d'autres candidates. Et même aux élections antérieures, j'avais été approchée par d'autres candidates. Et c'est cet ensemble d'expertise-là que je peux mettre à leur disposition avant que je ne sois moi-même prête à y aller, comme je l'ai dit, frontalement.
D'accord. C'est la fin de notre entretien.
Déjà.
Malheureusement. Un mot?
Alors, aux dames, aux jeunes dames, aux jeunes filles, allez-y, formez-vous, informez-vous. Vous avez votre place en politique. Moi, j'ai décidé de faire de la politique quand j'avais 9 ans. J'en ai plus de 30.
Un peu plus tôt,
oui,
à 9 ans.
Parce que j'ai entendu mes grands-parents, ma grand-mère, une de ses amies dire « Ah, tu sais, la politique, si tu ne la fais pas, tu la subis. Hein. » Et je me suis dit « Ah, mais il faut que je la fasse, je ne veux pas la subir. » Et donc, de 9 ans, on va dire, à 35 ans et plus, j'ai travaillé pour, je m'âme pour, parce que je ne suis pas prête. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on identifie tout de suite le politicien ou la politicienne à celui qui a de l'argent, à celui qui a beaucoup d'argent. Et comme je n'ai pas encore beaucoup d'argent, je travaille autrement. Et je travaille sur moi, je travaille sur mes performances, je travaille sur mon ancrage au sein de ma communauté, je travaille avec les jeunes et les femmes de ma communauté. De sorte à ce que cette idée que celui qui a l'argent ou celle qui a l'argent peut venir régler nos problèmes sans même les connaître soit indiquée de l'idée de ma population, de ma communauté, et pourquoi pas que ça fasse effet boule de neige. Donc, mesdames, travaillez sur vous. Ce n'est pas aisé d'atterrir dans un monde d'hommes. Travaillez sur vous. Travaillez à ne reculer devant rien. Travaillez sur votre mindset de victorieuse. Travaillez sur votre comportement en communauté. Pourquoi pas apprenez la langue. Quand je dis travailler sur vous, c'est vraiment tout ça. C'est un package. Travaillez sur vous à appartenir à la communauté à laquelle vous souhaitez demander des voix, vous souhaitez demander des votes. Parce que nous venons toutes de quelque part et nous devons toutes travailler à ce que notre environnement soit sain, notre environnement soit développé, notre environnement soit beau et que notre environnement puisse impacter d'autres personnes. Merci.
À vous le merci, Louise Yao, aujourd'hui pour parler de l'égalité de genre, particulièrement en politique, surtout aux élections en Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous sur le plateau. Rappelons que vous avez bénéficié d'une formation dans ce sens, initiée par le ministère de la Femme. Encore merci d'être passée.
Je vous en prie, c'est moi.